Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Je professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonsoir et bienvenue sur Onde Courte dans l'émission Clap, le cinéma qui s'écoute, qui est proposé par Kaleidos Film. Alors, je suis en compagnie de Charlie qui va m'aider à présenter un petit peu cette émission.
Bonsoir.
Tu peux même dire mon prénom, comme ça les gens savent.
Oui, bonsoir, c'est Thomas, notre cher présentateur.
Ah, trop bien. nous sommes en compagnie de Jeanne Piatier. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es réalisatrice.
Oui, d'émissions oui. radiophoniques.
Bien. Également en compagnie de Sylvain Bermudez. Attention, ça se prononce à l'espagnol parce que origine espagnole, hein.
C'est ça.
D'où le prénom Sylvain.
Voilà.
Bien sûr. Mathilde Sparagano.
Coucou.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et également Morgane Husson.
Coucou.
Voilà. Alors l'émission, comment ça va se présenter? On a pris un petit thème, qui est le thème portrait. Voilà, donc on va parler de portrait. Et vu que c'est du cinéma et que c'est pas pratique à la radio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des, on va présenter des pièces radiophoniques. Et toutes les personnes que j'ai présentées sont des gens qui ont donc réalisé une ou plusieurs pièces radiophoniques. Normalement, Jeanne, tu devais en avoir deux. Mais problèmes techniques, évidemment, c'est la première. Hein. Voilà. Et donc, à chaque fois, on va présenter, donc, enfin, on va écouter une pièce radiophonique et revenir ensemble dessus, tranquillement, à base de pompélope. Vous êtes chaud, chaud, chaud ?
On est chaud.
Oui,
chaud.
C'est parti.
Alors, peut-être que je peux présenter la première qui va être diffusée. Alors, la première, du coup, qui va être diffusée, c'est celle de Mathilde Sparagano, qui est ici, qui nous vient ici avec une émission radio qui s'appelle Chocholosa. Se prononce avec un S, mais c'est un Z à l'écriture. C'est dans le cadre d'un exercice réalisé à l'ESAV en 2014 que tu as fait cette émission radio. C'est un exercice pour préciser un peu le... Je précise un peu l'exercice, hein.
Oui.
Faisons ça. C'est un exercice stéréo qui est réalisé dans l'année de M1, Master 1. Donc c'est la deuxième année d'études quand on est à l'ESAV. Et voilà, peut-être que tu veux dire un petit mot avant de lancer cette émission ou on en parle après, c'est toi qui le vois.
On en parle après.
Allez, on en parle après. Alors je pense qu'on peut y aller et on y va pour Chocholosa.
Mafort Cap CP, c'est Mafort Cap CP de Chocholosa. Chocholosa pour Essai Radio, à vous.
Station pour la vigie, CP Fort Écart, monsieur Fort
Écart. Ok, merci. Bon quart, terminé.
T'as des gars qui naviguent pour fuir quelque chose. T'as des types qui naviguent pour le plaisir de s'en prendre plein la gueule, j'en ai connu. T'as des types qui naviguent pour le plaisir des escales, t'as des types qui naviguent pour tout un tas de trucs. Moi je navigue pour aller rencontrer des gens.
C'est parti à hisser. Obligé d'en panner tout de suite.
Ah ouais. De toute façon, si on passe au large tout ici, on s'en rend pas plus mal. Hein.
Ouais, ouais.
Je dirais qu'il y a à manger en dessous là, non ?
Bah, ouais. Ça a l'air d'être le repas là.
Ouais, c'est l'heure. Hein.
Là, regarde les goélands, comment ils y vont là.
Première grande trouille que j'ai chopée, j'avais 22 ans, quoi. Donc c'est avant-hier, quoi, on va dire. Je me suis ramassé un coup de mistral, la barre a cassé. On a dérivé deux jours de nuit avec mon meilleur ami et mon petit frère. Et je suis passé une fois à l'eau. La barre était cassée, les vagues étaient aussi hautes que le mât. Donc quand je dis que c'est au pied du mur qu'on voit le gars, Je suis content d'avoir vécu ça avec mon meilleur ami et mon petit frère. Je suis sûr aujourd'hui que, et je savais déjà à l'époque, il y a plus de 30 ans, que je m'étais pas bourré d'amis, quoi. Parce que toute une nuit, le dos aux vagues, le bateau travers à la lame, avec les tentant les vagues qui arrivent, les déferlantes qui vont passer par-dessus le bateau, tu te dis on va crever, quoi. Moi je me suis dit on va crever. Et avec mon pote Thierry, on s'est dit la même chose, quoi. Donc ouais, moi je sais aujourd'hui qui est ce gars-là, quoi, c'est mon ami. Pas de doute, quoi. Moi je recommande à tout le monde, quand il rencontre quelqu'un, d'aller naviguer avec, ils vont gagner du temps, quoi. Si l'histoire elle tiendra longtemps, et puis si elle doit casser, elle va casser tout de suite, c'est du temps de gagner, quoi. Faut se barrer en mer avec la personne qu'on aime, quoi. Sinon on ne sait pas à qui on a affaire.
Hey, hésite pas à le faire encore, hein. Pas tant que ça, hein. Non, non.
Quand t'es en plein océan, tu peux pas faire le 15. C'est forcément un marin dans le coin qui va se dérouter et qui le fera. Parce que ça, c'est une règle qui est au-delà de toutes les lois, quoi. Il se déroutera et il viendra te filer un coup de main, quoi. Parce que voilà. La même pas d'excuse, c'est voilà. C'est comme ça. Moi, je trouve que voilà, moi, c'est ce que j'ai appris en mer, quoi. J'ai appris à être lent. La plupart du temps, et hyper rapide quand il fallait. Mais donc lent. C'est-à-dire que tu arrives, la Terre c'est d'abord un petit point, et puis ça se précise, et puis tu as le temps de fantasmer sur l'escale. La dernière fois, on est arrivé à Fernando da Noronha, hein, qui est un archipel au large du Brésil. Et ben voilà, quoi, au départ, c'est pas grand-chose, tu devines la Terre, puis après, ça commence à grossir. Et puis tu peux même te dire que aussi sur l'île, bah, ils voient la même chose. Au départ, c'est un truc qui pourrait ressembler à un bateau. Et puis ça ressemble à un bateau. Et puis c'est un bateau. Et puis il y a un bateau qui arrive. Et puis chacun de notre côté, on fantasme sur qui on va rencontrer. Ouais, moi j'ai senti la mer, à chaque fois je sens la terre, quelques heures avant de la voir. Et ça c'est hyper magique. T'as l'impression que t'es vachement malin, mais non, t'es pas malin, quoi. C'est juste que t'es équipé pour et on l'avait oublié.
Chocholosa, réalisé par Mathilde Spargano, assisté de Raphaël Jourdain, avec Michel et Michel, et SAV 2014.
Good shot.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
C'est bien parce qu'à chaque jingle, on va pouvoir se souvenir qu'on est bien dans le clap, l'émission du cinéma qui s'écoute. C'est pratique. Alors, est-ce que quelqu'un a une réaction à chaud? Est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Ouh, on part sur de l'humour, on part sur de la grosse vanne. Mathilde, tu voulais rien dire avant?
Ouais.
T'as peut-être quelque chose à rajouter maintenant qu'on a entendu?
Non, bah c'était bien à faire, quoi, je sais pas.
C'était bien à faire, c'est-à-dire qu'est-ce que
bah, tu as fait? Bah, je sais pas, l'idée derrière, c'était de faire le portrait de Michel, du coup, qui est un navigateur. Et de faire derrière aussi, parce que je pense que c'est toujours un peu le cas, partir d'une personne et faire le portrait d'un monde ou d'une communauté ou quoi. Et c'était un peu à travers un marin, faire le portrait de ce monde-là qu'on ne connaît pas forcément tous, de la navigation, des gens qui se déroutent en mer pour aller chercher les autres et tout ça, quoi. Et de parler un peu à travers une personne, parce que je ne pouvais pas en si peu de temps aller voir beaucoup de gens. de ce monde-là, de leur vocabulaire, tu vois, il y a plein de mots qu'ils utilisent, c'est un vrai langage et tout ça. Et voilà, partir de cette personne-là pour faire un truc un peu plus général, quoi.
Finalement, c'est un petit peu une synecdoque.
Tout à fait.
Ce qui est cool, ouais, c'est les...
Ça va, tout le monde sait ce que c'est une synecdoque ou vous êtes tous semblants, là, sérieusement?
Moi, je fais semblant.
Normalement, je pensais que tout le monde allait faire genre... Oui,
non, non, je fais semblant.
Parler d'une partie pour évoquer le tout.
Ah oui, ouais, carrément. Mais en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que... moi, j'ai l'impression qu'il y a le portrait du bateau aussi, avec tous ces petits sons, ces petits craquements du bateau. Et je crois qu'à un moment, j'écoutais vachement ça.
Ouais, parce que le bateau est assez... il n'est pas séparable de la personne qui le dirige, quoi. Je sais qu'il me dit souvent que quand il navigue, il est avec son bateau. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un côté où tu reviens à l'essentiel et où tu es vraiment... ouais, tu te préoccupes pas des choses inutiles dont on se préoccupe tous les jours. Tu vas te préoccuper de tes besoins, toi, vitaux, et des besoins vitaux du bateau. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment, le marin est lié à son bateau. Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'ambiance de port, de navigation et tout. Parce que c'est une extension de lui-même à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que s'il gère pas son bateau, il est mal. Et tu vois, faut pas que lui, il lâche, mais faut pas que le bateau lâche non plus. Donc, il y a un vrai rapport entre les deux, quoi.
Et c'est quel type de bateau en fait? Il fait quoi? Il est pêcheur?
Non, c'est un voilier et il est marin professionnel, mais il navigue avec des enfants.
D'accord.
Pas mal. Des assos qui partent avec des moments de difficulté, ce genre de rupture, tout ça. D'accord. Mais là, quand j'ai fait le truc, je suis partie avec lui jusqu'en Corse.
D'accord.
Et j'ai filmé à ce moment-là, quoi, la traversée et tout ça.
Ok. Et tu l'as rencontré comment ça?
C'est mon père.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça qu'on...
Ouais, c'est assez pratique.
Oh, ouais, ouais, voilà.
Tu l'as croisé dans la cuisine.
Voilà, on s'est rencontrés, je me suis dit, putain, t'as l'air sympa, viens, on fait un truc ensemble. Et en fait, c'est Michel et Michel, parce que donc mon père Michel et le mec qui est avec lui sur le bateau, c'est l'ancien propriétaire du bateau.
D'accord.
Et ils sont partis naviguer ensemble. Et il y a ce truc-là aussi, tu vois, de passation et de... Mmh. Ils naviguent ensemble pour comprendre le bateau tous les deux, quoi.
Ok.
Voilà.
Et Chocholosa, du coup, c'est le nom du bateau?
Ouais, c'est le nom du bateau et ça veut dire en avant. Voilà.
En
Zoulou, si je dis pas de conneries, c'est un chant révolutionnaire de l'apartheid. C'est les.
Bon, voilà. C'est comme ça ira chez nous, quoi.
Pardon?
C'est comme ça ira chez nous.
Ouais, voilà. D'accord. Si tu veux.
Ok.
Alors, là, on s'exprime à 3, 4. Il y a deux personnes qui n'ont absolument pas parlé, donc du coup, en fait, elles sont là pour attendre qu'on parle de leur truc. Et en attendant, elles se taisent totalement. Voilà, bah, bravo.
L'œuvre est peut-être tellement limpide qu'il n'y a rien à
tout
dire.
Tout est pertinent autour de cette table, donc rien. Je n'ai rien à dire. J'ai aimé cette émission radio, je trouvais ça très poétique.
Voilà. Moi aussi. Poétique. J'ai aimé sa voix aussi.
Ouais.
Il a une voix qui porte bien.
Et c'est marrant parce que quand j'ai présenté l'émission à l'ESAV, donc après à la soutenance, un des profs avait mal compris parce qu'il dit à un moment donné, j'avais 22 ans, c'était avant-hier. Mmh. Et il m'avait dit, c'est quand même un peu con d'aller interviewer quelqu'un qui est aussi jeune. Tu vois, le mec, il doit avoir 25 ans. Et du coup, c'est rigolo que tu dis, parce que la voix, justement, au son, des fois, comme t'as pas l'image, t'as vraiment des interprétations différentes.
C'était des noms de profs de l'ESAV ou pas?
Non, je sais pas, mais je sais même plus qui c'était, mais je sais qu'on avait fait cette réflexion-là. Et je sais, bah non, il a pas 25 ans, c'est mon papa, il en a 55. Donc, moi, je pensais que ça s'entendait.
Mais que c'était une image.
Un essai poétique, ouais.
Et donc vous trouvez qu'il est poétique, mais dans quel sens? Parce que finalement, ça pourrait être très documentaire et très réel, en fait. Pourquoi c'est quoi? C'est de la poésie dans le réel ou c'est une dimension
au-delà? Peut-être qu'après, comme je ne sais pas naviguer et que j'ai jamais fait ça...
Elle a jamais fait ça.
Non, mais je sais pas, ça part. Enfin, je sais pas, moi, je me laisse vite partir dans les images qu'il donne, notamment sur ces histoires de lenteur. Le fait de voir arriver petit à petit la terre, de voir un point, puis ensuite que ce soit peut-être un morceau de terre, et puis un gros morceau de terre, et puis voilà. Enfin, ça me parle pas mal, je trouve ça assez beau.
Ouais, et puis c'est ses ressentis qui sont mis en avant de proprement parler sa condition de marin, quoi. Enfin, il parle pas de son métier, il parle de comment il vit de son métier plus que du travail en lui-même.
Mais ouais, je trouvais que c'était plus important de... Ouais, d'aller dans l'émotion plutôt que ce que je fais avec mon métier, des trucs factuels, quoi. Parce que ça, à la limite, il y a des sites qui existent pour ça. Son asso a fait parler d'elle-même. Enfin, c'était plutôt aller voir l'homme et justement le rapport homme-nature, homme-mère, tu vois. Un truc plus dans le ressenti et les émotions que sur une tranche de métier, par exemple. Tu vois ce qui se fait aussi, mais là, fallait que ce soit du ressenti parce que c'est un truc. Ça allait avec le thème, quoi. Vu que c'est la navigation, si tu veux, c'est l'homme face à lui-même. Il s'en fout de son diplôme de marin quand il est au milieu de l'Atlantique. Ce qui compte, c'est, tu vois, son intériorité, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais voilà.
Il y a de la police qui vérifie ton diplôme de marin quand t'es au milieu de l'Atlantique.
Ah bah, je pense que si tu pars avec des gosses au milieu de l'Atlantique et que t'as pas ton diplôme, tu
ouais,
peux
être au milieu de l'Atlantique, tu vois, genre des patrouilles comme ça.
Je sais pas ça, je pense pas. Après, peut-être pour les quand t'arrives aux douanes, quand tu te déclares en arrivant dans un pays.
En fait, c'était de l'humour à la base.
Ouais, hein. Mais... non, mais en même temps, je t'informe du coup, parce que je sens que tu, bah, tu manques de connaissances sur le sujet.
Je pars demain en plus, donc c'est vrai qu'il faudrait que je m'informe à un moment.
T'as pas besoin de permis de bateau pour diriger un voilier.
Oh cool.
Voilà.
Bah c'est parti.
C'est complètement con, mais enfin
c'est
comme ça.
Croisière.
Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez partir en mer, Jeanne, si t'as jamais fait.
Nickel.
Bah, demain, si tu peux partir en mer, t'as le droit.
Du coup, on va passer au, à la pièce radiophonique suivante, disons. Film radiophonique, au truc.
Pièce radiophonique.
Au machin. Suivant, qui s'écoute avec les oreilles. Et je te laisse l'introduire.
Et oui, alors la prochaine qu'on va écouter... ça s'appelle Le Taxi. En fait, je ne sais pas vraiment si ça s'appelle Le Taxi parce que c'est Morgan Husson qui l'a réalisé et qui m'a envoyé ça. Et c'était marqué Le Taxi sur le fichier.
C'était marqué Le Taxi VSL.
C'était marqué Le Taxi VSL, exactement.
Donc c'est Le Taxi VSL.
Donc, c'est Le Taxi VSL. Et voilà, c'est...
On ne peut pas confondre avec Le Liquide.
Oui, exactement. Le Liquide.
Ah, mais moi, on m'a demandé d'animer, j'anime.
Et voilà, alors on va écouter, c'est une autre forme de portrait, c'est plus dans un portrait, on va dire, de la prise du réel direct. Morgane, si tu veux peut-être dire quelque chose avant ou on en parle après, pareil.
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma du réel et la prise de réel, comme ça. C'est comme ça que je procède, en général, et voilà.
Ok, et eh ben alors je pense que...
À préciser quand même qu'il s'agit d'un extrait.
Oui, exactement. À préciser que c'est un extrait parce qu'en fait...
ça dure 26 minutes.
Ça dure 26 minutes quand j'ai... Il y a beaucoup de moments très intéressants dans cette œuvre, mais c'est permis d'en sélectionner un petit bout et on l'écoute maintenant.
Ok.
Je suis en clientèle, Bernard.
T'es avec
Monsieur
Vizère. Je sais que t'es avec
Monsieur Vizère. Ouais. J'ai Monsieur Vizère et j'ai la dame aussi.
Grand Jean-Luc, grand Jean-Luc.
Ouais, mais on est à trois dans le taxi.
Ouais, il fait le cinéma, quoi. Il me fait grand seigneur, Jacques, quoi.
Gabriel Péri, c'est Jeanne d'Arc. Non, pas Jeanne d'Arc, c'est au. C'est à Wilson que tu la prends, Gabriel Péri.
Mais non, Gabriel Péri, à Saint-Julie, tu la prends du bord du canal là-bas, Riquet, et elle descend jusqu'au boulevard.
Ah non, je peux pas, moi, je suis sur les boulevards. Là. J'arrive à Jeanne d'Arc, moi, là.
Ah, mais tu la prends d'abord là-bas, là.
Oui. Ah ben, Gabriel Péri d'abord, ouais.
Ouais, ben, c'est quoi, la place Bachelier là-bas? Où c'est qu'elle habite là-bas? Elle habite plutôt en bas ou plutôt en haut?
Côté canal, en haut.
Côté canal, elle habite.
Eh ben, tu prends place Bachelier là, et après tu tournes à gauche et tu la remontes.
Non, mais attends, je suis sur les boulevards là. Il faut que je remonte alors tout en haut.
Là. Quand tu arrives au Sutise là, tu tournes à gauche, et au milieu, là, Jean Jaurès, tu tournes à droite.
Je remonte les allées Jean Jaurès.
Ah oui, on peut, oui.
À moitié, tu te vas à droite, là, t'arrives place Bachelier, Et quand t'as rien pris de la réalité, tu rentres pas à gauche. Hein.
Voilà. Je vous dirai quand tout. Gaz.
Eh, montrez-lui, c'est pas tout musée, il vient de Paris, il aura fait 40 ans de taxi, il sera pas encore ça, il sera parce qu'il s'en y connaît pas. Oh là là. Eh, Jean-Luc, ouais. Tu pourras lui filer un plan? Tu pourras lui filer un plan pour ça?
On va lui expliquer, merde.
Montrez-lui, et chaque fois que tu passes dans une rue, tu vois, Jacques, le panneau là-bas, Gabriel Péri, ah, le panneau là-bas, place Bachelier, ah, le panneau là-bas, allez, Jean Jaurès, oh là là. Gazé,
va.
Oh purée, va. Alors après,
laisse-nous
faire après pour aller rue
Soufflot
depuis là.
Tu iras, méfie-toi,
parce qu'il
y a aussi,
on va partir à zéro.
Ah, rue Soufflot, moi je repars au
sel
pour retrouver.
C'est pas un quoi. Mais putain, j'ai dit, il était le feu, quoi. Il fait demi-tour à le rond-point de l'Auxerre, il s'arrête avant, à Leclerc, le rond-point de Leclerc, il fait demi-tour et repart. Je vais t'expliquer, Jean-Luc, là, tous les soirs et rôles dans Toulouse. Là. Je vais t'expliquer, là, t'inquiète.
Ouais, tu le vois dessus.
Explique-le, là. Je vais passer par, en fait, je vais passer par la rue d'Aubusson, retour là-bas.
Non, mais la rue du Buisson, je la connais.
Ouais, mais bon. Et pour y arriver là où tu es, tu vas te faire, toi. Tu vas passer par tromper, tu vas prendre la rue de l'Étoile, ça c'est interdit, toi. Eh, Jean-Luc, tu sais qu'une fois il a pris, quand il y avait le camion 8 places, il a pris. Vous allez à rue Alsace-Lorraine en marche arrière. Il s'est trompé, quoi.
C'est vrai en plus.
Et Denis, à 19h15, pas à 19h, hein, c'était pas. Oh putain, quoi. À chaque fois qu'il arrivait, il me parle.
Il y avait les bites là.
Il y
a personne qui voulait m'ouvrir à tout. Rue Alsace-Lorraine en marche arrière, j'ai trouvé. Donc là, je suis là, madame. Hein.
Ouais, sur la bûche.
Ouais.
Putain, mais il y a des filles partout.
Hein. Ah, bah oui.
Putain, mais.
On ne sait même pas allumer. Des gros cons, là. Ah, putain.
Et après, c'est juste au niveau de la pharmacie à droite.
Ok. C'est-à-dire au feu rouge.
Oui, c'est ça.
Hop là. Vous savez que ça vous... 50 euros là, il y en a.
Pour moi?
Ouais, pour vous.
Mais c'est la CMU qui prend en charge, non? Moi j'ai rien à payer.
Colonel Edwards? Yes, sir. Good luck. Thank you, sir.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Ah, mais c'est dans Clap qu'on est.
Ouais,
d'accord. Ok. Bon, je viens d'écouter le taxi et ce qu'on peut dire, c'est que ça commence sur les chapeaux de roue. Alors, je vais peut-être pas faire une vanne à chaque fois parce que je commence déjà à faiblir très, très violemment.
Très voilé.
Ouais, la roue est très voilée, effectivement. Non, mais c'est pas moi qui gère. Raph, mets-moi des rires. Parce que là, c'est la mort. Formidable.
Merci.
C'est qui ce type? C'est trop bien. C'est juste ouais, c'est trop bien.
Ouais, je sortais de l'hôpital et il y a ce monsieur taxi VSL qui est venu me récupérer. Et
VSL, ça veut dire quoi?
C'est les taxis ambulances en fait. Ouais. Et j'étais très contente dès que je suis arrivée dans le taxi et je me suis dit que ça méritait sûrement d'être enregistré. Et en plus, contexte assez particulier, je sortais d'hôpital psychiatrique, du coup j'avais un peu besoin à ce moment-là de capturer le réel pour être sûr que ça existe. Et du coup, je tenais beaucoup. Enfin, ça m'a semblé évident sur le coup d'enregistrer ça. Et je ne l'avais pas écouté jusqu'à ce que Charlie m'en parle. Et voilà.
Ce qui est marrant, c'est que quand tu me l'as envoyé, tu m'as envoyé un petit message en disant « Tu vas voir, c'est avec deux messieurs qui respirent fort. »
Ouais.
C'est qui l'autre gars dans la voiture, en fait?
Je sais pas.
Celui qui, à un moment, on lui pose une question, il fait...
Je sais pas, il était là dès le début. Enfin, quand je suis sortie de l'hôpital, il était déjà dans la voiture et
mais je ne sais pas qui c'était.
En fait, pour resituer, comme l'émission, là, c'est un extrait. Je crois que ce moment arrive au bout d'une bonne quinzaine de minutes. Et ouais, ça a l'air d'être un ami à lui qui dépose, quoi. Enfin, si j'ai bien compris, quoi. Mais, et d'ailleurs, le mec qui l'appelle aussi au taxi, ils ont l'air de tous se connaître, mais ils n'ont pas l'air de savoir qu'ils sont forcément sur écoute.
Non. Alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu l'avais prévenu que tu étais en train de l'enregistrer ou pas?
Non, ça fait partie de mes méthodes un peu peu scrupuleuses et pas très respectueuses des procédés habituels.
Mais... Ouais, c'est du micro caché, quoi.
Ouais. Souvent, vu que ça me surprend en fait, souvent ce genre de truc et que j'ai pas de matériel, j'ai que mon téléphone, donc je le mets sur enregistrement et j'attends que ça se passe, quoi.
C'est fou quand même la technologie, comment ça prend bien le son, les téléphones maintenant.
Non, mais c'est un super moyen d'avoir quelque chose
d'authentique
et de cette scène, elle est où pendant trois plombes, Sylvain, tu m'étonnes que ça fasse 50 euros. Enfin, ils sont paumés pour trouver cette rue.
Ils faisaient une blague. Okay,
mais il y a un truc où.
Ouais, ça se serait pas produit si je l'avais prévenu, quoi.
C'est ça. Et souvent, quand t'enregistres des gens au son, il y a une posture qu'ils prennent aussi. Ouais. Et que là, du coup, t'as plus du tout ça. T'as pas un phrasé bien construit et tout. Et c'est ça qui rend le truc vachement drôle, quoi.
Mmh. En tout cas, il y a des flics partout. Hein. Propos politiques,
justice nulle part. C'est super drôle. J'ai trouvé ça super drôle. En plus, quand on connaît un peu Toulouse, quand le mec il dit qu'il va à la rue Gabriel Périph, c'est où ça, Jeanne d'Arc? C'est totalement l'opposé. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça super drôle. Et puis, j'aime bien les vannes qui s'envoient entre eux.
En fait, ce qui est cool aussi dans cette émission, je trouve, c'est que c'est le plan séquence, quoi. Genre, on est avec eux dans le temps que tu as été avec eux à ce moment-là, quoi. Et du coup, t'as vraiment l'impression de ressentir le voyage, quoi. Surtout quand on l'écoute entièrement, c'est passé tout seul, en fait. Les 26 minutes, elles passent bien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu
le
faire.
Le mieux, c'est de l'écouter en voiture. C'est le ça. mieux, c'est de l'écouter en taxi.
En taxi, mais là, t'as beaucoup de chance.
Attention, pas en VTC, parce que...
Non, c'est VL, c'est VLC.
Oui, oui.
VSL.
VSL, oui, VLC, ça va.
Tu disais tout à l'heure que tu faisais beaucoup de cinéma du réel. Enfin, que
j'en fais pas, mais ouais, c'est le cinéma qui m'inspire. Ouais.
C'est le cinéma qui t'inspire. T'as déjà fait d'autres choses
J'ai quelques autres enregistrements, pareil, pirates... d'embrouilles dans ma rue, des trucs comme ça. Avant le film au cinéma, souvent je fais des prises de son, des gens qui parlent. Et j'en fais pas forcément grand chose, mais ouais, je les ai, ouais. Okay. J'aime bien le faire.
D'accord. T'as pas fait d'image? Tu t'es
non.
pas lancé dans l'image?
J'aimerais bien, mais j'ai jamais eu le courage de le faire, je pense.
Ok.
Il y a peut-être quelque chose qu'on peut dire, c'est que tu fais partie d'un collectif.
Ouais.
Qui s'appelle le collectif Métiers à tisser. Alors. Voilà, si tu peux nous en dire quelques mots de ce collectif.
Alors c'est un collectif de gens qui se rassemblent donc, comme dans un collectif, et on fait tous un peu...
sport collectif
et tout. Ouais, tout ça. Et on fait des trucs qui vont de la musique aux vidéos, du montage. Ça, je l'avais fait à part, je ne les connaissais pas encore à l'époque, mais... Mais ouais, collectif Métiers à tisser, on est là.
On est là, on est à Toulouse. Ok, super.
Juste en tant qu'un petit peu néophyte, je suis à peu près la seule personne qui n'y connaît pas grand-chose en cinéma. Mais bon, pour les auditeurs, voilà. Parce qu'en vrai, j'y connais évidemment plein de choses. Cinéma du réel, qu'est-ce qu'on appelle cinéma du réel? C'est juste prendre une caméra et filmer des gens sans qu'ils le sachent? La caméra cachée, c'est du réel?
Non, je pense pas que ce soit nécessairement sans qu'ils le sachent. La condition du cinéma du réel, c'est représenter le réel, je pense, le cinéma du réel. Je sais pas, j'ai pas fait d'études de cinéma non plus. Mais...
Ah ouais, d'accord, pardon.
Un cinéma où il n'y a pas trop de montage, où on n'essaie pas de faire dire ce qu'on veut aux gens, on les laisse parler.
En gros, est-ce que l'émission Striptease, c'est du cinéma du réel?
Ouais, je pense. Ouais.
Au début, oui. Je pense qu'au début, oui. Et à la fin, c'est devenu une émission où, d'après ma perception, c'était vraiment... Ouais, il y a Striptease qui passe, on va regarder un beauf qui habite dans sa caravane. Et vers la fin, ça devenait un peu condescendant, mais à la base, c'était vraiment l'intention de cette émission. Ouais.
À la base, oui, mais la différence qu'il y a avec Striptease et ce qu'on vient d'écouter, par exemple, c'est que Striptease, il y a une narration par le montage qui fait que ça change beaucoup la donne, parce que on peut réussir à faire dire plusieurs choses avec des images, surtout en les montant. Mmh. Alors que là, on ressent plus le cinéma du réel grâce au plan séquence qui ne peut pas mentir, quoi.
Mmh. Ouais, mais il y a du cinéma du réel qui est monté aussi.
Complètement. Je pense que cinéma du réel, ça peut englober pas mal de choses aussi, et c'est... Mmh. J'ai l'impression que si on essaye de mettre des trucs dans des cases, ça, c'est peut-être un peu compliqué.
Ouais. Vas-y, il faut faire péter les cases.
Ouais.
Carrément.
Allez, ciao les cases. Il y a beaucoup de policiers ici. Hein.
Non, il y a des moments mais qui sont géniaux. Quoi. Mm. Mais c'est vrai que la vie réelle, finalement, la vie réelle, par opposition à la vie pas réelle, hein, la fameuse, c'est plein de ce genre de petits moments, de ces petites perles. Pourquoi je suis en train de faire des phrases philosophiques nulles, je ne sais pas.
Ça a complètement changé le ton de l'émission. Là, d'un coup, c'est devenu hyper sérieux et nostalgique.
Ça me fait penser au Bref de comptoir. Tu sais, des fois, t'es dans un café, puis t'as un mec qui rentre et puis il dit un truc.
Ouais, t'entends des perles.
Et puis
ça,
il s'en va, et puis c'était juste parfait. Tu peux pas l'écrire, quoi. Ouais. C'est un scénario.
Mais il y a un moment, ça me torturait beaucoup, en fait. J'avais tout le temps mon téléphone en enregistrement sur moi parce que j'avais peur de louper un truc formidable comme ça qui pouvait se passer autour de moi et je voulais absolument l'avoir et pouvoir le ressortir et le faire briller après, quoi. Ça se produit pas toujours.
Donc tu te sers ton téléphone pour écouter les gens et pas pour parler. C'est intéressant, ça.
Ouais, un peu comme quand on a envie de capturer quelque chose en image, on se dit « Ah, ça, c'est trop beau. » Prend photo direct, ça se fait au son aussi. Et c'est cool.
Faut accepter également l'éphémère de la vie et de la beauté de ces instants qui ne reviendront plus.
Oui.
Ouais, je sais pas ce que j'ai. Peut-être qu'il faudrait qu'on passe à la prochaine.
Justement, on parlait de fiction réelle, fiction réelle. Et là, on va passer sur une œuvre qui s'appelle L'homme rat de Sylvain Bermudez. Ici présent. Et là.
Ça n'a pas l'air tout à fait ça, la prononciation.
Ah, si, c'est ça.
C'est ça ? Ok, tu fais une tête.
Bermudez.
Ok.
Et là, pour le coup, on passe du tout au tout, du coq à l'âne, je ne sais pas, je n'ai pas l'expression, mais ce n'est pas grave, parce que là, c'est complètement plutôt une fiction, voire une science-fiction, je dirais même. C'est peut-être même plutôt toi qui vas nous en dire encore plus.
Bah, pareil, je préfère qu'on l'écoute et en parler
après.
Mais si possible, si les gens qui l'écoutent, s'ils peuvent se mettre dans le noir, éteindre leur lumière, fermer les volets, fermer les yeux, ça fonctionne mieux dans le noir. Voilà.
Allez. Moi, je ferme pas les yeux, j'ai peur.
On y arrive. Terminé ici, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange. Tu te rappelles le cauchemar que j'avais fait il y a quelques jours, que je t'avais raconté, où j'étais dans les égouts et je me faisais poursuivre par un homme rat. Ouais, j'essayais de lui échapper et tout, c'était terrible. Vraiment un cauchemar très terrifiant. Bon, et il n'y a pas longtemps en fait, en me promenant ici par hasard, je suis passé devant cette arrivée d'égouts, cette sorte de tuyau qui se jette dans la Garonne. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reconnu ce bruit-là. C'est exactement le bruit des égouts que j'entendais dans mon cauchemar. C'est exactement ce bruit-là. C'est-à-dire que j'ai fait ce cauchemar, mais j'avais jamais entendu auparavant ce bruit-là. Donc, dans mon rêve, j'ai imaginé ce bruit-là. Et là, en fait, je viens de me rendre compte que l'égout que j'ai imaginé, donc avec ce bruit, existe vraiment, vu qu'on est en face. Donc, si on suit mon raisonnement, les égouts que j'ai imaginés sont réels. Donc, l'homme rat qui vit dedans est forcément réel. Tu comprends ?
Tu crois ce que tu viens de dire, là ?
Bah ouais.
L'homme rat doit forcément vivre dans ses égouts, vu que les égouts existent.
Il vit dans les égouts. C'est son habitat, son territoire. Comment est-il arrivé là? C'est comme pour les crocodiles domestiques. Quand leurs propriétaires veulent s'en débarrasser, ils les jettent dans les toilettes et ils tirent la chasse. Sauf que là, c'est une jeune maman de 19 ans qui a balancé son fœtus aux chiottes. Mais le bébé, après avoir fait un sacré tour de toboggan dans les conduits d'évacuation de Toulouse, a atterri sur un matelas de déchets. C'est sur ce petit nid douillet qu'il a construit son coin. Il a survécu. Son instinct animal, celui qui sommeille encore en chaque être humain, a repris son droit naturel. Il a dû avoir malgré tout une alimentation suffisamment variée. On en trouve des choses à se mettre sous la dent dans les égouts. Naturellement, au début, il se nourrissait de ce qui lui passait sous le nez. Des fluides visqueux de toutes sortes, des sparadraps, des étrons, des parts de pizza, des serviettes hygiéniques, des fonds de seringue et des semelles de chaussures. Mais quand ses sens commencèrent à s'affirmer et qu'il apprit à se mouvoir plus rapidement dans les tuyaux, il s'est mis à chasser. Ces menus se sont dès lors enrichis en viande, rats, crapauds albinos des égouts, cafards, araignées et autres ragondins. Et même parfois un autre fœtus, qui celui-là n'aura pas eu la même chance que lui. Aujourd'hui, il est vieux, très vieux, vivant dans les tuyaux. Il parcourt tous les jours des kilomètres et des kilomètres, toujours en pataugeant dans cette mélasse innommable. Il est là, sous nos maisons. Les rats ont fini par l'accepter parmi eux. Il a réussi, à l'aide d'une stratégie politique très élaborée, à devenir leur roi. Le roi des rats. Une curiosité, malsaine ou pas, je n'en sais rien, me pousserait quand même à m'engouffrer à l'intérieur de l'obscurité, à explorer les égouts. Je pourrais peut-être découvrir, au détour d'un tuyau, le nid de l'homme rat. Un recoin sombre et humide, tapissé de moisissures et de liquide noir. Le sol, jonché d'objets de toutes sortes qu'il ramène de ses excursions en ville. Des livres imbibés d'eau qui ne sèchent jamais, des bâtons de bois, des poupons démembrés, des photographies, elles aussi devenues orphelines suite à des déceptions amoureuses et qui ont fini dans la cuvette, un vélo rouillé, et sur une étagère, plusieurs grands bocaux en verre, jaunis par le temps, où il aurait classé avec soin ses collections de billes, de dentiers, d'œils de verre et de clés perdues. À côté de l'étagère, une chaise en plastique, avec une jeune fille attachée dessus. L'homme rat avait voulu l'épouser, mais il a oublié de la détacher, alors elle est morte de faim. Mais il la garde quand même. Il aime bien lui caresser les cheveux, lui donner des petits baisers dans le cou. Il aime la contempler. Il la trouve très jolie. Il est amoureux.
Sylvain, t'es chiant là! Ça fait 3 heures qu'on est dans les égouts! Bon, j'en ai marre, je me casse! Sylvain?
Is he dead? Yeah.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
La bonne envie, hein.
On est où?
Donc, vas-y.
Parce que, ça faisait un moment que je n'avais pas réécouté.
Ça date de quand, ça?
Alors, ça date, je crois que j'ai fait ça en 2006. Okay. Ça faisait partie aussi d'un exercice de l'ESSA où on devait faire un portrait, justement, radiophonique. Et en fait, l'histoire de ce truc, c'est que déjà, moi, je suis passionné par les faits divers, les histoires de créatures bizarres. On connaît tous les histoires des crocodiles abandonnés dans les toilettes qui grandissent dans les égouts, ce genre de truc. Et à cette période-là aussi, j'avais vu un documentaire et je m'étais renseigné sur... en fait, sous les rues de New York, il y a des centaines de kilomètres de métro, de rails de métro et de stations abandonnées, et t'as toute une population qui vit en dessous. Voilà. Donc tout ça, ça c'est un peu...
Humaine.
Ouais. Des sans-abri, tout ça, qui vivent sous terre, et, voilà, qui se cachent, et puis il y a toute une société comme ça, il y a des gangs, ils ont un système de troc et tout. C'est vraiment des gens qui habitent là, quoi. Et je pense qu'en fait, un soir, après avoir lu ce genre d'histoire, dans ma tête, ça fait une sorte de mélange un peu bizarre. Et j'ai vraiment fait un cauchemar où je me faisais attaquer par un homme rat. Et comme je le raconte dans l'émission, un jour je me baladais, je suis passé devant ce tuyau et j'ai entendu ce bruit. Et je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire un docu-fiction. Du coup, je suis vraiment allé dans les égouts, je suis rentré dans ce tunnel pour aller enregistrer ce son qui est génial, le son qu'on entend là.
Ah, je me demandais si c'était toi qui l'avais refait.
Non, non, c'est vraiment un son. C'est un truc, je l'ai samplé sur des morceaux de musique et tout, vraiment c'est un super son. Et voilà. Et après, je l'ai présenté à l'ESAV. Et en fait, on a écouté cette émission. Je vous ai dit de se mettre dans le noir parce que quand on écoutait les émissions de tous les élèves, on se réunissait en bas dans l'auditorium, dans la salle de ciné. On éteignait toutes les lumières, on était dans le noir et on écoutait toutes les émissions à la suite, en fait. Et je pense qu'avant moi, il y avait une fille qui avait fait un portrait vachement touchant sur son grand-père qui travaillait le bois, un truc comme ça. Et moi, c'était la dernière émission et il y a cette émission qui est passée, voilà. Et après, les lumières se sont rallumées. Et voilà, ça... Je ne me rappelle plus vraiment... je crois qu'ils m'ont demandé d'en refaire une autre, en fait. Mais je, voilà, mais je l'ai gardé parce que je l'aime bien.
Mmh. En fait, ce qui est assez cool par rapport au fait que ça soit une émission radio, c'est que l'homme rat, du coup, j'ai l'impression que chacun peut se l'imaginer comme il veut, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu forcément dans un produit audiovisuel, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de le faire au son, du coup, à chercher des sons de petits rats comme ça.
Et puis c'est marrant parce que finalement, c'est le portrait de l'homme rat, et alors qu'il n'y a pas le son dédié à cette créature-là, enfin, t'as pas essayé de... C'est pas, on l'entend pas, en fait, vraiment, et c'est intéressant parce que le truc que j'ai fait comme ce que, le taxi, là, aussi, le portrait de la personne, on l'entend, cette personne-là, enfin, là, c'est indirect, en fait, comme portrait. Je trouve ça intéressant comme processus, parce qu'effectivement, du coup, chacun se l'imagine et... C'est ouais, du subjectif assumé complet, quoi.
Ça se rapproche vachement d'une lecture, en fait, d'un livre, quoi.
Ouais, et puis l'idée, c'était de... Enfin, nous, on n'a pas connu ça, notre génération, mais nous, on a Netflix, mais à l'époque, il y a plein de chaînes de radio, en fait, qui faisaient des émissions radiophoniques. J'en ai écouté quelques-unes, on peut en trouver sur Internet, et c'était vraiment des feuilletons... où on entendait, il y avait des histoires de meurtre, des trucs comme ça, on entendait un mec qui claquait une porte, qui tire un coup de feu dans le studio. Et j'avais envie de faire une émission radiophonique, un peu comme à l'époque, quoi, avec des bruitages. Et, je pense que si j'avais essayé de le faire en film, ça aurait plus ressemblé à une série B avec des maquillages bizarres et un pauvre mec en costume, des trucs gluants dessus.
C'est pas Orson Welles qui avait fait une pièce radiophonique où c'était...
Ouais.
L'adaptation du livre de
Wells, La Guerre des Mondes,
et ça avait fait flipper tout le monde.
Ouais, c'était juste une lecture, je crois. Je suis pas sûr qu'il a enregistré quelque chose, juste il le lisait à la radio. Ouais. Et les gens qui l'ont entendu, ils lisaient tellement bien, ils ont complètement flippé.
C'était
en fait.
Un soir de Halloween.
Mais ils lisaient le livre,
justement. Ils ont rajouté des bruitages et tout, et des fausses interviews, des mecs qui disaient « Ouais, tout est en feu, je vois la ville, je vois de la fumée et tout. » Non, mais ça a été super grave, il y a des mecs qui sont sortis leur bagnole, il y a eu des accidents, il y a des gens qui ont quitté la ville et tout, à tel point qu'il a dû faire... présenter ses excuses à la nation deux jours après, quoi. Parce que le mec au fin fond du Texas, il allume la radio, il entend tout est en feu, ils ont cramé mon chien et tout. Et puis t'entends les bruits de laser et tout. Ouais, les mecs ils ont bien flippé.
Mais notre génération, ce qu'on a connu, ça va être plus de la saga MP3. Je sais pas si t'as écouté les Donjons de Nullbeck ou. Non, je suis le seul.
Non, mais c'est intéressant, c'est quoi ?
C'est Donjon Nel. Mais je pense que c'est. Alors, ça, les 10 ans, tu vois, qu'on a d'écart.
Ok.
Je pense à peu près. Hein.
Ouais.
C'est pile poil là que ça s'est passé, mais ça a été un truc très éphémère, je trouve.
Ok.
C'est en fait, le Donjon Nelbug, c'est de la fiction audio, quoi. Mais très con, c'est très rigolo.
Ok.
Et t'as d'autres trucs, t'as Reflet d'Acide, Survivor. Il y a eu une époque où ça a été extrêmement. Enfin, ouais, il y avait énormément de choses qui sortaient un peu partout, quoi, et ça s'est éteint très vite. Il y a encore un forum qui est actif là-dessus, qui s'appelle Netophonix, je crois.
Ok, ben j'écouterai ça alors, merci pour le...
Et je crois que c'est Antoine Daniel qui fait l'émission What's the Cut sur Internet, ça va, je suis pas tout seul encore, c'est bon.
Non, mais je suis pas vieux quand même, je veux dire.
Non, je suis pas vieux.
Ça va, Internet,
je sais manier la souris, je sais aller sur YouTube.
Voilà, qui fait une émission sur YouTube et qui veut lancer maintenant une saga MP3.
D'accord, ok.
Donc c'est assez marrant que ça revienne, tu vois.
Tant mieux, cool.
C'est con parce que t'aurais pu. 2006, je pense que c'était pile poil le moment où ça prenait à mort sur Internet, saga MP3.
C'était plus un délire, en fait, hein. Voilà, c'était vraiment pour m'amuser.
Eh, mais ils ont tous commencé comme ça. Et puis, maintenant, il y a des BD. Tu vas avoir la BD L'Homme Rat, quoi.
Mmh. Ouais, pourquoi pas.
Mais du coup, les gens n'ont pas pu se l'imaginer. C'est triste.
Mmh. T'as une image précise de cet Homme Rat ou c'est un peu comme dans ton émission, quelque chose de...
Dans ma tête, ouais. Ouais. Ouais, okay. Ouais, carrément. Mais quand j'ai écrit le texte, en fait, au début, je voulais le décrire physiquement, mais je me suis aperçu que c'était pas forcément nécessaire. Mmh. Je voulais plutôt décrire l'endroit où il vivait.
Oui, l'environnement.
Puis ça en dit quand même pas mal sur lui, le fait qu'il collectionne des objets, tout ça. Et puis j'aime bien l'idée de savoir qu'il y a peut-être un mec comme ça qui vit dans les égouts de Toulouse, et qui se balade sous nos maisons la nuit. Voilà.
Mais je trouve que même en plus de ça, le fait qu'il n'y ait pas d'image renforce ce côté angoissant, et puis même pas qu'angoissant, mais mystérieux, quoi, surtout. D'ailleurs, il le cherche autant que nous, on le cherche dans notre tête, à quoi il pourrait ressembler. Quoi, donc,
ça serait tout de suite beaucoup plus irréaliste si on avait dû lui apposer des images, et même une description un peu précise, quoi, tout de suite.
Ouais.
Ça répondrait à certains clichés ou je sais pas quoi, qui rendent le truc moins réaliste, moins prenant.
Bon, après, c'est sûr qu'il doit quand même avoir une drôle de gueule, et puis, vu son mode de vie, mais...
Moi, j'imagine Eric Zemmour, mais je suis pas sûr.
On peut la réécouter avec en pensant et...
Allez, on se repasse. Cool. Voilà.
Je te laisse quelques secondes.
Non, mais c'est... Ouais, non, mais il s'en rapproche un peu, effectivement.
En même temps, Éric Zemmour, en 2006, qu'est-ce qu'il faisait, quoi?
Bah, à mon avis, pas beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on met la caméra sur lui, quoi.
Voilà, exactement.
Tu vois, il était tranquille dans l'ombre, machin, on parlait pas de lui, et tout le monde s'est dit « Ah, l'Omra, c'est un vrai !» Bam, toutes les caméras...
Ça y est, je fais le lien, maintenant.
Voilà, il écrit des bouquins. Ça n'a pas de sens. Des gens pour les lire, surtout.
Bref, Zemmour, donc,
il est sorti de ses égouts.
Et on va enchaîner sur Blanc Machine.
Et Blanc Machine. On enchaîne sur Blanc Machine. C'est une œuvre radiophonique de Jeanne Piatier, qui est juste à mes côtés, qui a été fait durant aussi le cursus de l'ESSAV. Je crois que j'en profite d'ailleurs, allez, c'est le moment. J'en profite pour dire un petit merci à l'ESSAV qui nous accueille dans ses locaux, dans son auditorium.
Merci au Master Son qui ont installé.
Allez,
tout
allez
ça,
on dit merci à tout le monde maintenant,
merci,
c'est parti.
Merci.
Parce que Blanc Machine, c'est notre dernière œuvre qu'on va diffuser dans cette émission aujourd'hui. Ça a été fait durant l'exercice stéréo aussi, qui se fait en Master 1. Et alors, Jeanne, après, elle a fait le Master 2 de son. Elle est sale.
Waouh!
Elle s'envoie. Hein. Et je pense que tu en parleras mieux que moi, mais de souvenirs. Et c'est un travail de recherche aussi qu'est cette œuvre pour un film audiovisuel qui a suivi. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant que ça parte ou...
En tout cas, juste dire qu'effectivement, c'est une pièce qui a été réalisée dans le but d'être après utilisée dans un film audiovisuel. Et puis voilà, c'est tout. En fait, je répète ce que tu viens de dire.
Allez, merci. Blanc Machine de Jeanne Piatier.
Thank you. c'est intolérable. Il faut les surveiller.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Je fais pas de blague sur...
Putain, on l'a entendu.
Et c'est le problème de faire le même truc à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est quoi l'émission déjà? Donc Jeanne, c'était blanc machine. Ouais, blanc parce qu'il y a de la neige et machine parce que c'est des machines.
Ouais, c'est de la machine infernale de la station de ski. On peut le voir comme ça, ouais. Blanc parce qu'il y a de la neige. Pourquoi pas?
Non, mais ça n'a rien à voir avec faire une machine à laver par exemple et la lessive lave plus blanc que blanc. Ou... Ce genre de choses, parce que moi j'ai eu peur que ce soit un jingle publicitaire, je me suis dit, oh, allez, c'est bon quoi.
Ouais, ça aurait pu, mais pourquoi pas.
Bah, ouais, c'est ce que. Au début, j'ai cru que tu avais enregistré des sons dans une laverie ou un truc comme ça, du coup, pendant à peu près 2 minutes, je croyais que c'était des bruits de machine à laver, je me disais, mais putain.
Elle est cool, cette machine à laver.
Non, c'est génial, c'est des sons qui sont super que t'as. On dirait, ouais, c'est un petit côté indus et tout.
Et on voit le mec qui fait de la musique électro qui a genre putain.
Ouais, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse, ce genre de son. Là, tu peux sampler des trucs.
Il y a une banque de sons dans ce genre d'endroit, c'est incroyable.
Mais t'étais en extérieur ?
Bah, il y a un peu de tout en fait. En fait, ce son, il a existé parce que j'ai fait une saison en restauration dans une station de ski. Et en fait, j'ai eu à un moment donné envie d'en faire un film. Et donc, j'avais commencé à suivre un saisonnier pour essayer de représenter un peu un sentiment que j'avais eu dans ce boulot-là, dans le fait d'être enfermé dans une espèce de grosse machine à touristes, en fait, qui est genre un peu dans laquelle tu peux pas trop sortir, surtout qu'en plus, c'est une station où il n'y a pas de voiture, donc tu es vraiment dans un espèce de microclimat, genre, enfin, microcosme, genre. C'est bizarre. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'avais pas trop ce que je voulais. Mon protagoniste, il vivait pas la même chose que moi, forcément. Donc ça ne donnait rien par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et en fait, je me suis mis à faire du son avec tous les sons que j'avais récoltés pour essayer de justement sortir quelque chose qui s'apparentait plus à ma vision de la station de ski, de ce que j'avais vécu, de cette espèce de grosse machine industrielle. Et donc, en fait, c'est comme ça que, voilà, que j'ai fait ça. Et c'est en fait ce qui m'a servi presque de scénario pour après pour mon film.
Voilà. Ok, c'est intéressant.
Parce que il y a quelque chose qu'on peut dire parce que j'ai eu l'occasion de te suivre pendant l'aventure et je sais qu'il y a une partie de ton travail qui consiste à enfin il y a une partie de ton travail qui va dans le sens où écrire un film pourrait partir de enfin pas pourrait écrire un film peut se faire à partir de l'écriture sonore et c'est quelque chose sur lequel je sais que tu as travaillé et que là par Blanc Machine, ce qui est intéressant, c'est que tu représentes le portrait d'une station uniquement avec des sons de partout dans cette station, sans jamais, contrairement à tout ce qu'on vient d'entendre, une voix claire ou un interview ou quelqu'un qui pourrait parler de cette station. Le portrait, il se fait par tous les petits sons et les gros sons qui existent dans cette station, et voilà. J'ai pas vraiment de questions en vrai, mais...
C'est marrant parce qu'il n'y a pas de voix claire, comme tu dis. Il y a des points d'accroche quand même. Moi, le son de la... Le toum, tout toum, le truc super régulier qui revient, j'ai super bien fait, mais il est... C'est presque un personnage. Enfin, il y a un truc hyper machiavélique et hyper angoissant dans ce son-là, et t'as une espèce de montée, puis ça redescend là avec des espèces de sons d'eau, ou je sais plus, mais il y avait un moment calme. Quand t'as ce son qui revient, t'as l'impression que t'as une menace, tu sais, qui revient comme un truc où tu le vois venir. Et du coup, c'est rigolo parce que t'as un point d'accroche quand même. Et c'est assez fort parce qu'effectivement, il n'y a pas de voix audible. Quoi. Enfin, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de personnage humain. Et finalement, c'est un peu cette machine-là qui... Enfin, moi, je suis partie très très loin sur ce son de machine.
Ouais, je l'ai pris un peu comme un personnage, en fait.
Ouais, c'est ça, ça se sent, ouais.
Et je l'ai voulu la travailler comme ça parce que j'avais pas le saisonnier qui me... qui m'accrochait, donc... Ouais, c'est comme ça que j'en suis venue à faire ça, quoi. Et c'est vrai que quand on dans cet endroit, c'est impressionnant. Enfin, quand il passe du temps, tu n'as jamais de silence vraiment, quoi. Alors que tu es au milieu de la montagne, c'est hyper vaste. Et même la nuit, tu entends toujours un bip-bip qui vient d'une dameuse ou d'un truc. Enfin, tu as l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Donc voilà.
Ouais, ce qui est cool, c'est que je trouve que ce qui est réussi, c'est les émotions que tu fais partager. Et la narration par ces émotions. Mmh. On passe par des moments de tension, de stress, qu'on dirait que tu as ressenti lorsque tu travailles là-bas, à des moments où finalement tu peux te poser et te reposer sur la nature qui est autour, comme les petits sons d'eau, très choupis.
Et des enfants aussi, il y a un enfant qui dit oh, les vacances,
ah bah bravo les vacances.
Ouais, voilà, un truc comme ça, ça m'a fait rire.
Et voilà. Ouais, ouais, mais il y a vraiment plein de trucs enregistrés là-dedans. Des extérieurs, des intérieurs, dans des machines, très proches, très loin, dans une cuisine, parce que le saisonnier que j'ai filmé, il était dans une cuisine. Et voilà. Mais c'est vrai que tu disais, en fait, tout à l'heure, par rapport au questionnement, en fait, avec ce truc, je me suis beaucoup posé la question de savoir par quoi on commençait quand on écrivait un docu, notamment, parce que j'étais plus dans l'esprit du documentaire avec ce film et avec ce son. Et donc je me suis mis à remettre totalement en question ma façon d'aborder le montage, et donc de commencer par du son, ensuite de venir y poser des images. Donc ensuite je suis revenue sur le son. Bon, au final c'est un mélange de un petit peu de ce son entrecoupé par d'autres choses avec des images. Voilà.
D'ailleurs on peut voir ton film qui s'appelle Tri-Industrie.
Qui devrait remonter sur la Kinosphère bientôt, mais que je n'ai pas réussi à mettre.
C'est une suite trop cool créée par Kaleidos Film.
Ouais, ils la sont vraiment trop cool. Hein.
Ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas qu'un film aussi bien que soit sur un super site.
Merci.
Ça va, vous n'avez pas trop rendu compte de la pub, c'est bon.
C'est passé nickel.
On va tous se dire merci et au revoir aux auditeurs. Bien.